ténèbres des villes. Toutes ces femmes, en collant noir, qui attendent. Sébastien Lespinasse.
Bonsoir, bonsoir, Supersonic, bienvenue. Sur coussin d'air, monté sur coussin d'air et les yeux dans le vague, voilà ce que nous sommes ce soir. Il ne faut pas se laisser faire par les apparences, il faut plutôt les bousculer, shooter dedans ou laisser shooter. On peut préférer les quilles après le strike et le mikado qui tremblote, même si ce n'est pas permis, même si ce n'est pas fait pour. Surfer, voilà, oui, accepter la vague et en faire quelque chose. Qu'elle nous submerge s'il le faut, qu'elle nous transforme, qu'elle transforme notre langue en borborygme et qu'elle nous bouche la vue, mais on en fera notre complice. C'est ça le truc. La culture a ses machines, les amis, et les machines ont leur culture. C'est Supersonic ce soir. Salut les androïdes. Et bienvenue à vous. Tout à l'heure, rendez-vous dans un autre monde, celui de la réalité virtuelle, avec Arnaud Collinard, producteur chez Agathe Film Ex Nihilo, et avec Amaury Laburte de chez Audio Gaming à Toulouse, deux des chevilles ouvrières d'un documentaire saisissant l'histoire d'un homme qui perd progressivement la vue et qui tient la chronique de cette perte en s'enregistrant sur des cassettes, une histoire de sens, une histoire humaine qui fait la matière d'un documentaire à voir sur grand écran un jour prochain, mais aussi en version VR, comme on dit, réalité virtuelle, donc avec ses casques qui permettent de voir et d'entendre à 360 degrés. Donc c'est aussi une histoire de son. Entendre à 360 degrés, le son est fondamental dans cette histoire. Le documentaire s'appelle Notes on Blindness et on en parle donc avec nos deux invités de la deuxième partie de Supersonic tout à l'heure. Mais d'abord, rendez-vous avec le poète Sébastien Lespinasse.
Nous qui parlons, sommes parlés. Nous qui achetons, sommes achetés. Nous qui aveuglons, sommes aveuglés. Nous qui bégayons, sommes bégayés. Nous qui classons, sommes classés. Nous qui condamnons, sommes condamnés. Une tête, une tête. Nous qui consommons, sommes consommés. Nous qui parlons, sommes parlés. Nous qui masquons, sommes masqués. Nous qui crétinisons, sommes crétinisés. Nous qui critiquons, sommes critiqués. Nous qui défaisons, sommes défaits. Une tête n'a plus. Une tête n'a plus. Nous qui démodons, sommes démodés. Nous qui dépensons, sommes dépensés. Nous qui dépeuplons, sommes dépeuplés. Nous qui déraisonnons, sommes déraisonnés. Nous qui questionnons, sommes questionnés. Nous qui parlons, sommes parlés. Nous qui dessaisissons, sommes dessaisis. Une tête n'a plus son homme. Une tête n'a plus son homme. Nous qui détournons, sommes détournés. Nous qui englobons, sommes englobés. Nous qui nombrons, sommes numérisés. Nous qui enrageons, sommes enragés. Nous qui façonnons, sommes façonnés. Nous qui parlons, sommes parlés. Nous qui habitons, sommes habités. Nous qui imaginons, sommes imaginés. Une tête n'a plus tout son homme. Une tête n'a plus tout son homme. Nous qui vidons, sommes vidés. Nous qui vivons, sommes vécus. Nous qui parlons, sommes parlés. Nous qui passons, sommes passés. Nous qui utilisons, sommes utilisés. Nous qui nommons, sommes nommés. Nous qui oublions, sommes oubliés. Nous qui parlons, sommes parlés. Nous qui pensons, sommes pensés. Une tête n'a plus tout son homme sur ses épaules sur ses épaules. Une tête n'a plus tout son homme sur ses épaules sur ses épaules. Une tête n'a plus tout son homme sur ses épaules.
Bonsoir Sébastien Lespinasse.
Bonsoir.
Vous êtes avec nous depuis France Bleu Toulouse, comme le sera tout à l'heure d'ailleurs Amaury Laburte. Il y a du beau monde à Toulouse. Vous remettez du festival Les Bruits Sonnantes que vous avez contribué à organiser au théâtre Le Hangar. Et là, on vient de vous entendre dans vos œuvres, actifs, passifs. Et d'emblée, on est dans le sujet.
Ah oui, on est dans une langue qui veut être une sorte d'impulsion pneumatique. On est dans quelque chose qui est une sorte de système piston actif passif, comme si au fond les choses s'enchaînaient les unes dans les autres, comme si les mots se rentraient les uns dans les autres, aussi quelque chose de l'ordre du feedback. On entend une sorte de dimension pulsionnelle, sonore, avec le corps qui parle, qui gémit, qui grince là-dedans et qui fait un peu, d'une certaine manière, qui fait entendre la pression pulsionnelle de ces pistons verbaux qui se rentrent les uns dans les autres. Alors c'est une pièce au début qui était prévue pour deux voix et que j'ai enregistrée avec Patrick Müller sur un disque Trace Label pour une seule voix. Donc on a reconstruit cette chose-là, mais c'est un jeu très amusant normalement à deux voix aussi à faire et qui est un peu inspiré des chants inuits, des chants de gorge inuits, le chant Katajak où ces femmes se chantent dans la bouche l'une de l'autre et transfèrent une sorte de pulsion énergétique, rythmique. Donc effectivement, c'est complètement raccord avec ce qu'on essaye de faire à Toulouse avec le Festival des Bruits Sonnantes, à savoir promouvoir une poésie qui est au fond basée sur l'acte. Le mot poésie, poiesis, voulant dire dans son lointaine étymologie grecque, faire, fabriquer. Et donc, ce qui nous intéresse, c'est le déploiement du poétique comme un art de faire, un art d'être sujet de sa langue. Mais être sujet, bon, évidemment, c'est une question complexe parce qu'on n'est jamais complètement sujet. On est à la fois sujet et objet de la langue, puisque les mots, nous qui parlons, sommes parlés. Nous sommes à la fois actifs et passifs. Nous sommes partie prenante. Nous faisons partie d'un tout, d'un ensemble. Nous sommes dans un état d'immanence. Je ne sais pas si je m'égare, mais on s'égare toujours. La poésie, c'est le chemin de l'égarement, de toute façon.
Oui, oui. Non, mais en plus, on a le temps de s'égarer. S'il le faut, il y a aucun problème. Avec vous, Sébastien Lespinasse, alors vous disiez la poésie comme action. Alors, la poésie comme action, c'est aussi la poésie, celle que vous produisez vous-même, que vous performez vous-même sur scène avant toute chose. C'est-à-dire que l'écriture poétique pour vous, elle est d'abord une écriture scénique. Vous parliez du corps, et le corps et la voix d'abord.
Oui, alors, il y a plusieurs... j'écris dans différentes directions, ou je suis écrit dans différentes directions. Mais en effet, une des choses majeures pour moi, c'est ce qui se passe sur scène, parce que... au fond, ça renvoie à l'origine, à ce qui m'a lancé moi-même dans ce travail artistique, qui était au départ, je ne viens pas du tout de la littérature ou de la poésie livresque, si on peut dire. J'ai démarré mon travail poétique quand j'étais étudiant en philo, en faisant des actions de rue, des happenings, avec un groupe d'étudiants comme moi. Et au fond, l'action, c'était une manière de continuer à interroger, à faire de la philosophie par d'autres moyens. C'est-à-dire une façon de décaler et de nous rendre conscients des choses en créant une sorte de décalage, un peu à la manière, je ne sais pas si vous connaissez Alan Kaprov, à la manière d'Alan Kaprov qui créait des happenings, qui interrogeait des choses extrêmement quotidiennes, comme par exemple les différentes manières de se dire bonjour, de se saluer, et il travaillait un mince écart et qui révélait en fait la situation. Et donc moi j'ai démarré vraiment dans cette idée de modifier la perception qu'on a du réel. De j'aime bien cette idée qu'on trouve chez Lautréamont, que la poésie est quelque chose de pratique, que c'est quelque chose, c'est pas des doux rêveurs dans les nuages, c'est des gens qui utilisent cette chose qui nous traverse et nous travaille tous, qu'est le langage, pour ouvrir des poches, pour ouvrir des espaces inouïs, inattendus, pour essayer au fond de révéler par ces espaces, de prendre une sorte de distance avec ce qui se passe par le langage. Je sais pas comment le dire mieux. Et ce qui me fascine, moi, dans le langage, au fond, et c'est pour ça que c'est la question de la scène et de l'oralité, ou ce qu'on appelle poésie sonore, même si cette étiquette, elle est un peu particulière, elle est un peu difficile à porter dans un sens.
À cause de quoi ?
Oh, parce que elle entretient une équivoque. Qu'est-ce qui est poétique? C'est le son. C'est quoi la poésie sonore? Puis c'est quoi un poète qui est pas sonore, un poète muet qui ferme sa gueule? Enfin, il y a quelque chose comme ça de très un peu, bon, c'est l'étiquette de Chopin dans les années 60.
Henri Chopin, oui.
Ouais, d'Henri Chopin, elle est pratique, mais elle n'est pas, elle est commode pour désigner un terrain d'expérience, mais peut-être qu'elle n'est pas pour moi la plus fondamentale. Parce qu'au fond, ce qui m'intéresse, et pour essayer de répondre à votre question, ce qui m'intéresse dans ce travail de la scène, c'est au fond tout ce qui peut se dire par la présence même. C'est-à-dire tout ce qui parle, évidemment avec, mais aussi en dessous, à côté, contre, à l'extérieur du langage. Il y a quelque chose qui parle, alors moi j'ai tendance à appeler ça, mais ma nomination est peut-être très imparfaite ou insatisfaisante, j'appellerais ça l'animal du langage. Il y a quelque chose qui parle entre nous, par notre manière même d'être, notre corps, notre souffle, il y a plein de choses qui parlent sous la langue. Et c'est fascinant parce que le travail de scène permet d'explorer concrètement et directement ce que d'autres écrivains ont pensé et réfléchi dans leur acte. Je pense particulièrement à Nathalie Sarraute qui a beaucoup travaillé sur ce qu'il y a.
Les interstices du langage.
Ouais, exactement. Tout ce qu'il y a sous, entre les mots, toute cette part d'implicite. Et moi, j'aimerais travailler, enfin, je dis j'aimerais parce que je maîtrise pas tout, mais j'essaye de garder dans mon écriture, ma manière de faire, un espace véritablement pour que ça parle en travers le langage. Donc je lutte un peu contre les mots aussi, d'une certaine manière.
Est-ce que vous diriez qu'il y a, dans votre pratique de la langue ou dans ce que vous voyez dans la langue, quelque chose d'archaïque au sens qu'on peut parler du cerveau archaïque, c'est-à-dire ce qui relève de l'instinct, ce qui relève de... Mais aussi ce qui traverse les générations et les époques à l'intérieur du corps.
C'est une belle question parce qu'il y a, en fait, il y a un rêve de poésie sonore depuis longtemps avec Chlebnikov, notamment de l'invention d'une langue transmentale. C'est-à-dire quelque chose qui parlerait au-delà des langages. Et effectivement, qui s'originerait dans quelque chose qu'on peut appeler archaïque. Alors moi, pourquoi pas? J'aurais plutôt envie quand même de parler d'un terme un peu différent d'archaïque. Peut-être le mot élémentaire. Je suis sensible à une poésie élémentaire. Élémentaire au sens où les dadaïstes ont pu se dire on va refaire le langage à nouveau frais en recommençant par les éléments les plus simples du langage, les syllabes, les phonèmes. Et on va reprendre une langue qui n'est plus une langue discours où le sujet serait celui qui régit ses phrases et qui maîtriserait ce qu'il va dire, mais un mot qui est tout entièrement sensation et pensée. Je suis très sensible dans les usages populaires de la langue. Bon, je suis prof en collège, donc je vois aussi comment des adolescents travaillent la langue. Je suis très sensible à cette manière qu'ont ces adolescents d'utiliser les mots comme des actes, comme quelque chose qui est presque une gifle, qui est presque une manière de toucher directement l'autre.
Voilà, on entend là le début d'un poème à vous, Sébastien Spinas, le lien que vous faites justement. Enfin voilà, ça illustre exactement ce que vous disiez à l'instant. On écoute.
Errance.
Il se dit poète pneumatique plutôt que poète sonore. Notre invité, la première partie de Supersonique ce soir, Sébastien Lispinas. Donc là, un poème, je crois, qui s'intitule R, je ne sais pas comment on peut dire.
R, tout à fait, R, la lettre ouais. R, c'est ça, c'est ça.
Alors on entend, vous parliez un instant des dadas, c'est les 100 ans en fait, les 100 ans, on célèbre les 100 ans du mouvement dada ces temps-ci un peu partout, à droite à gauche. Et pour vous, Sébastien Lispinas, il y a un dada particulier qui est Kurt Schwitters, qui est une référence, c'est une référence pour quiconque malaxe la langue, notamment sa oursonate, et pour vous c'est le cas.
Ah oui, absolument. Alors la oursonate, c'est en fait c'est ce qui m'a fait passer du happening à l'idée que le langage pouvait être un acte terrible de subversion. Mm-hmm. J'ai eu beaucoup de chance avec la oursonate, qui est donc la oursonate. Peut-être faut un tout petit peu présenter. La oursonate, c'est une sonate de son primitif. C'est une composition. En fait, c'est le chef-d'œuvre de la poésie phonétique qui a démarré dès le futurisme. Qui a été futurisme italien, et puis qui a été développé ensuite par plusieurs poètes dadaïstes, dont Raoul Haussmann aussi, qui d'ailleurs réclame en partie la paternité de la oursonate. Mm-hmm. Peu importe, c'est pas, ça me semble pas être la question fondamentale, mais c'est l'idée, au fond, de construire une forme intermédiaire entre la musique et la parole. C'est une très vaste composition de syllabes et qui joue sur quelque chose effectivement de complètement primitif. Une des choses magnifiques.
Alors le duplex a été coupé manifestement. On va. Sébastien Lispinas, est-ce que vous êtes là?
Oui, ça y est, je suis revenu.
Ah bon, voilà, c'était de courte durée. C'était les esprits dada qui nous ont joué un tour. Donc vous disiez, vous parliez de la oursonate, oui, de vous dire ce qui est magnifique. Bah, c'est quelque chose que vous avez rencontré dans quelles circonstances, la oursonate de Kurt Schwitters?
Bah, la oursonate, je l'ai rencontrée vraiment par hasard, grâce à la radio, je dois dire, parce qu'à l'époque, je vivais à Toulouse et il y avait une radio que je salue ici, Radio Canal Sud, qui passait dans la nuit beaucoup de choses de poésie sonore. Mmh. Et j'étais étudiant, j'ai entendu un petit bout, la version medley qu'il a enregistrée à Londres, une version très courte. Et ça a été presque comme une sorte de défi après d'apprendre cette sonate de son primitif, qui est quelque chose effectivement de magnifique, d'important, parce que c'est une manière, enfin, quand on apprend, quand on essaye de faire cette partition-là, on est obligé d'engager tout le corps, et on est obligé de chercher où s'originent, au fond, les sons qu'on est obligé de produire, parce que c'est une machine d'emportement rythmique. Je peux peut-être donner juste le tout début de la oursonate pour que les auditeurs comprennent un peu. Fums babat het se ou pogif kuye de desen ar iye rumftil to yuka rinse katabibi en skarmut si on dit rinse karmu raktabibi raktabi zi. Et donc c'est une longue partition qui joue presque sur une quarantaine de minutes. C'est le sommet. Oui. C'est le sommet de la poésie phonétique et c'est vraiment une construction entre la parole et la musique. Mm-hmm. C'est une construction qui est puissante parce qu'elle nous amène à inventer une manière de lire et une manière de l'entendre.
Il y a des partitions de la oursonate ou faut l'apprendre à l'oreille?
Alors, si, il y a une partition qui est d'ailleurs assez drôle. Il y a eu un travail très beau avec un typographe qui s'appelait Jean de Sichold. Donc elle a été vraiment mise en page. La mise en page d'ailleurs est signifiante. Il y a des écartements, il y a des sons qui sont, il y a des voyelles redoublées, il y a l'utilisation du umlaut, on dirait les deux points, mais enfin, il y a toutes ces choses-là.
Les guillemets allemands, voilà.
Ouais, des guillemets allemands. Et puis il y a des petites indications un peu comme Satie au fond dans ces partitions. Des indications qui sont un peu mystérieuses. Par exemple, il y a des endroits qui sont joués primitifs, très simples, mouvementés. Donc il y a une sorte de partition, et Schwitters a fait cette chose qui est très drôle. Il a donné des conseils pour des gens qui n'ont pas d'imagination. Donc il précise vraiment pour des gens qui n'ont des interprètes qui n'ont pas d'imagination. Il donne un motif. Comment est-ce qu'on peut construire cette il donne un motif rythmique, notamment d'une phrase qui revient tout le temps. Et alors moi, je suis très content parce que, ne sachant pas lire la musique, au fond, ça m'intéresse cette ouverture qui a Schwitters donne la possibilité de s'emparer de sa partition et d'en faire un peu ce qu'on en veut. D'ailleurs, je signale pour les auditeurs qu'il y a un très grand nombre de versions de la Orsonate qui existent et qu'on peut entendre sur l'excellentissime site UbuWeb.
Ah oui.
Vous pouvez entendre vraiment des tas de versions très différentes, très étonnantes, et qui font entendre la plasticité un peu de cette partition, si on veut.
UbuWeb, le réservoir d'archives des avant-gardes du XXe siècle, les avant-gardes artistiques du XXe siècle, il faut constamment y retourner, parce qu'en plus il est animé par le poète Kenneth Goldsmith. Sébastien Lespinas, vous voulez nous proposer gentiment, oui, pour nous, pour les auditeurs de Supersonic, une lecture, enfin une pièce à vous, réalisée en live depuis France Bleu Toulouse, où vous êtes avec nous ce soir, intitulée D'automne.
Oui. On y va, je...
On peut
je
y aller. Peut-être, on peut y aller.
Ok.
D'automne, par Sébastien Lespinas, en direct dans Supersonic. Merci d'avoir partagé ça avec nous, et on comprend tout de suite que la question du son, du réel, s'intègre aussi dans celui du langage.
Ah oui, parce que ce que je cherche au fond, c'est une sorte de physique du poème, et ça m'intéresse d'entendre les mots dans leur possibilités, dans leur caractère concret, ce qui font qu'ils existent comme des choses dans le monde, je ne sais pas comment le dire mieux. Alors la pièce que je viens de vous lire, d'automne, qui est une pièce un peu ancienne, mais que j'aime bien faire quand j'ai en face un beau micro, un beau Neumann, comme j'ai là devant moi, c'est une pièce qui est en fait une sorte de pièce semi-improvisée. J'ai en face de moi sur une feuille, plein de mots qui ont cette capacité de s'agglutiner de manière sonore, puisqu'ils ont des sons, des fricatives, des chuintantes qui peuvent rentrer les unes dans les autres. Et c'est aussi pour moi un principe très simple d'imitation. J'ai un petit canevas dans ma tête qui est le mouvement tourbillonnant des feuilles en automne. Et ce qui m'intéresse aussi, c'est de jouer le signe en faisant entendre donc ces feuilles qui sont des mots, qui sont aussi des souffles, et qui sont aussi la feuille qui se déchire à la fin du poème. Donc, bon, c'est une petite manière pour moi de créer un espace du souffle, de résonance, où ces mots sont pas tout à fait des mots. On les entend pas tous bien. Il y a quelque chose d'un peu fantomatique qui peut-être s'immiscer à l'intérieur. Il y a le souffle qui parle. Ça parle à différents endroits. Ça parle un peu dans la langue, mais ça parle un peu sous la langue. Ça parle dans le souffle. Voilà, c'est ce qui m'intéresse au fond, c'est de travailler ces zones un peu d'indistinction qui fait que le langage, une sorte d'intensité, d'incarnation par le corps, mais aussi les mots eux-mêmes s'incarnent dans leur corporalité à eux, parce que les mots aussi ont une corporalité, ils ont une forme, ils ont un son, ils ont une histoire, ils ont une étymologie, ils sont vivants les mots en fait, ils sont complètement vivants.
Et cette vie des mots et la manière que vous avez justement de vitaliser les mots, vous partagez ça parfois avec certains musiciens. Est-ce que justement aller creuser dans les interstices du langage, de la langue, vous le partagez parfois avec vous avez travaillé avec Guillaume Loisillon, avec Jérôme Oettinger, avec Bertrand Goguet. Bertrand Goguet, voilà, saxophoniste. La question du souffle aussi, elle est éminemment présente dans son travail. Ça se partage ou alors tout d'un coup ça modifie la manière de la poésie?
C'est une excellente question. En fait, il y a quelque chose qui se partage de l'ordre d'une communauté de travail. On a des points de rencontre très, très forts, mais en même temps, au fond, se pose toujours la question, malgré tout, quand je travaille avec un musicien, particulièrement en live avec lui, quand j'improvise avec Bertrand Goguet, par exemple, où est-ce que je me situe? Est-ce que la parole est au premier plan? Est-ce qu'elle ne risque pas de prendre le premier plan? Et je rêve, en fait, d'être aussi libre que Bertrand Goguet avec la musique et d'être aussi libre moi avec les mots, les souffles, avec tout ce qui fait ma matière, tout ce qui me traverse. Alors je sais que j'ai testé des tas de fois des rencontres avec des musiciens, avec Guillaume Loisillon, Jérôme Nottinger, Patrick Muller, c'est les trois pistes qui sont remixées à la fin de mon disque. Là, je dois dire que je n'ai pas fait de travail, ils ont utilisé des pistes qui n'ont pas d'ailleurs été forcément celles qu'on a choisies après pour le disque. Et ils les ont remontées, ils ont fait un travail de mixage, ils se sont régalés. Moi, j'adore écouter ça, je trouve ça génial. C'est une écoute, c'est une traduction, c'est une réinvention. Et puis, avec des musiciens comme Sébastien Sirotto ou Bertrand Goguet, avec lesquels il m'arrive de jouer, ce qui se passe plutôt, c'est que progressivement, j'ai abandonné le texte et j'essaye d'être en état d'improvisation avec eux, ce qui est très difficile pour moi, qui est un peu comme sauter dans le vide. Mais bon, il y a que ça de, il faut sauter dans le vide, il faut essayer des choses, quoi. Il faut prendre le risque de ne pas trouver la voie. D'ailleurs, c'est très beau de voir quelqu'un qui cherche et qui ne trouve pas. C'est suffisant aussi en soi.
Alors, si on veut vous voir sauter dans le vide, Sébastien Lespinasse, dans les prochains temps, j'ai quelques dates sous les yeux. Ça nous porte au mois de juin, mais pourquoi pas? C'est notamment le 5 juin, une lecture performance dans le cadre du marché de la poésie à Paris. Là, vous serez en compagnie de Ma Decheng et Laurence Vielle, qui était sur ses ondes il y a quelques semaines. Le 24 juin, quelques jours plus tard, une lecture performance au CIPM. Ça, c'est à Marseille, non? C'est ça?
Oui, c'est ça.
En compagnie de Los Muchos, Carole Lataste et Benjamin Charles. Et le lendemain, au rendez-vous du Bois Chevalier, à Leugé, dans Loire-Atlantique. Et là, vous serez en compagnie de Bernard Noël, Patrick Lepin et Vénus Coury-Gatta. Merci beaucoup d'être passé par Supersonic, même à distance.
C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup pour cette invitation.
Et donc, on ne peut que conseiller, notamment ce disque dont on parlait chez Trace Label, qui est paru il y a quelques mois maintenant, Pneuma Air. Et voilà, bonne suite à vous. À très bientôt.
À très bientôt.
Vous êtes à l'écoute de Thomas Baumgartner. France Culture, Supersonic. De Supersonic sur France Culture. De Thomas Baumgartner. Thomas Baumgartner est Supersonic.
Deuxième partie de Supersonic, on va vous parler d'un documentaire qui n'est pas encore tout à fait sorti, mais qui a déjà fait le tour de pas mal de festivals dans le monde entier. Bah oui, c'est possible. Un documentaire particulier parce qu'il est immersif en VR, comme on dit parfois, c'est-à-dire en réalité virtuelle. Ça s'appelle Notes on Blindness, notes sur la cécité, on peut dire ça. Et le son, il y a une place fondamentale, l'immersion dans le son et dans le reste, en fait, avec Notes on Blindness. Bonsoir, Arnaud Collinard.
Bonsoir.
Vous êtes producteur de Notes on Blindness chez Agathe Film Ex Nihilo. Et bonsoir à Maury Laburte.
Et bonsoir.
Vous êtes à Toulouse, dans un studio de France Bleu, Toulouse. Et vous, vous dirigez Audio Gaming, qui est, si je ne me trompe pas, une société qui réfléchit, produit des solutions, de, pour dire vite, de synthèse sonore, c'est ça? Vous inventez des illusions sonores?
Oui, aujourd'hui on fait deux choses, on crée justement des logiciels qui créent du son, donc à partir de modèles mathématiques on génère du son en temps réel, et puis la deuxième activité sont des créations originales, interactives, qui ont souvent beaucoup de son dedans, mais pas que.
Alors il y en a du son dans Notes on Blindness, donc c'est un, encore une fois un documentaire, plusieurs épisodes, qui dans l'idéal se regarde et s'écoute avec ces casques immersifs qui se répandent depuis Noël dernier, on va dire, et qui... a priori, à chaque Noël ou chaque anniversaire, vont se répandre encore un petit peu plus. Et il y a des productions comme ça, artistiques, en l'occurrence documentaires, qui existent à travers ce nouveau mode de regard et d'écoute sur les films, et sur les documentaires en particulier. Donc, Notes on Blindness, Arnaud Collinard, le point de départ de ce projet, c'est quoi? C'est un court-métrage, c'est ça?
Ouais, tout à fait. En fait, tout d'abord, ce sont deux auteurs et leurs producteurs, donc Peter Middleton et James Spinney, qui sont venus nous voir pour coproduire en fait le long métrage qui serait la suite de ce court métrage Notes on Blindness qui a été diffusé sur le site du New York Times et qui a gagné un Emmy Award dans la catégorie News. Donc ils cherchaient des partenaires de coproduction et donc ils se sont tournés vers Arte et Arte nous a fait rencontrer cette équipe avec David Coujard qui est mon associé avec qui je coproduis ce projet. Et nous on a aussi la spécificité d'être une société de production qui s'intéresse beaucoup à tout ce qui est œuvre interactive. Et c'est comme ça qu'on a commencé à réfléchir à une dimension donc voilà plus interactive autour du projet pour l'accompagner. Dans un premier temps, on était tourné vers cette idée peut-être d'être dans un parcours moins biographique, mais plus sur les sensations et sur la perception de ce que pouvait être la perception du monde de quelqu'un qui devient aveugle.
Oui, parce qu'il faut quand même raconter un peu l'histoire, le propos, l'intention de Notes on Blindness. Le point de départ, ce sont véritablement des éléments documentaires, des éléments du réel, qui sont des enregistrements faits sur cassette par un homme qui a, on va dire, documenté, chroniqué sa plongée dans la cécité.
Exactement. En fait, les deux réalisateurs ont rencontré John Hull il y a un certain temps de cela. Et en fait, ils ont travaillé ensemble sur la base de ces enregistrements. John Hull, en fait, est devenu aveugle à l'âge de 45 ans. Et il a enregistré pendant 5 années, régulièrement, des cassettes, en fait, un journal intime audio de ce qui lui arrivait. Et c'était pour lui une manière d'essayer de comprendre tout simplement le changement psychologique, mais aussi métabolique qui pouvait y avoir à devenir aveugle quand on n'est pas aveugle de naissance.
Ces propos sont véritablement sensitifs, au sens qu'il y a une précision des mots sur comment évolue lui, sa propre sensation et son propre ressenti par rapport au monde extérieur qui change, puisque finalement, de certaine manière, c'est pour lui moins lui qui change que le monde extérieur et l'impression qu'il en a et la connaissance qu'il en a.
Alors effectivement, nous, c'est là-dessus qu'on s'est focalisé, mais c'est quasiment une auto-analyse qu'a fait John Hull au travers de ses cassettes. John Hull est un professeur de théologie et de philosophie à l'université de Birmingham, donc c'est quelqu'un qui était, puisqu'il est décédé en juillet dernier, extrêmement lettré, extrêmement brillant. Il y a une partie de ces textes qui ont été publiés sous le titre anglais de Touching the Rock, et en fait qui est un livre qui est tiré des transcriptions globales desquelles on est reparti. Et donc effectivement, il s'intéresse à la fois sur le changement de perception qu'il a du monde et en même temps les changements intimes, avec des choses très fortes sur, comme des questions par exemple sur que se passe-t-il quand on ne voit pas littéralement vieillir les gens qu'on aime, alors que soi-même on vieillit et qu'on est un homme de 60 ans, alors qu'on a l'image de ses enfants quand ils avaient 6-7 ans, alors que maintenant ils en ont 20, et qu'on voit, voilà, qu'on ne voit pas vieillir en tout cas les gens qu'on aime. Et c'est des choses vraiment très universelles. Et à mon avis, c'est une des forces de ce projet qui, même s'il parle beaucoup de la perception du monde, en fait, renvoie à des choses très intimes. Et c'est ces deux facettes du projet, à mon avis, qui en font quelque chose de très fort.
John Hull est mort, vous l'avez dit, en juillet l'année dernière. Et le projet avait déjà démarré, il en avait entendu parler, et vous aviez discuté avec lui, vous avez pu échanger avec lui.
Alors nous non. En fait, John Hull était très... investi sur le projet de film, il était au courant de ce projet en réalité virtuelle. Il a beaucoup accompagné le projet. En revanche, on a eu la chance durant le festival de Sundance de rencontrer Marilyn Hull, donc la veuve de John Hull, qui donc a pu tester le projet. Et alors pour nous, ça a été une expérience très forte avec Amaury et les auteurs, puisque tout d'un coup, en fait, autant dans le film, on voit un comédien jouer en fait son mari. Là, en fait, elle était à la place même de son mari. Mais en fait, Marine a tout à fait compris l'objectif et l'immersion que pouvait procurer l'expérience et quel était le but, à savoir en fait transmettre une forme de compréhension à des voyants de cette situation. Au départ, c'est un projet qu'on a démarré avec Amaury dans la perspective qu'il soit uniquement audio. Et on s'est rendu compte que pour transmettre cet univers-là et cette histoire-là, pour des voyants, on devait s'appuyer sur l'image, puisque en fait, pour les voyants, c'est le sens qui va en fait dépasser tous les autres et qui va driver en gros notre rapport au monde bien plus que tous les autres sens.
Oui, et c'est aussi à travers ce qu'on voit qu'on comprend ce qui se transforme, y compris à l'intérieur de John Hull. On est à la place de ce personnage, on l'entend de cette personne, on l'entend, la voix est au centre, c'est la voix des cassettes hein, qu'on entend, c'est vraiment sa voix, c'est la voix de John Hull, vraiment, vous ne l'avez pas repris ou fait rejouer par un comédien.
Non, il n'y a rien de rejoué, on est vraiment parti de cette dimension documentaire, de cette dimension d'archives, la dimension visuelle. Alors il faut rappeler que ce n'est pas un film, on est davantage dans ce qu'on appelle du CGI, c'est de l'animation. C'est-à-dire qui est proche de celle du jeu vidéo. Et ce qu'on a essayé de faire, c'est une métaphore visuelle de la perception du monde par une personne aveugle et en rien chercher quelque chose de réaliste. Donc on est vraiment dans ce registre de la métaphore pour donner une compréhension des logiques de perception de l'environnement par John Hull.
Alors, c'est pas réaliste, mais il y a un effet de réel assez saisissant quand même. Et effectivement, l'image s'altère, bien entendu, puisqu'on est à la place de quelqu'un qui devient aveugle. Amaury Laburde, comment vous avez, au départ, saisi ce projet-là et un projet dont on comprend évidemment que le son est le son dans lequel on est immergé, avec ce casque sur les oreilles et sur les yeux. Comment vous l'avez abordé?
Avec beaucoup d'excitation au départ, parce que ça mélange des choses qui nous tiennent à cœur depuis très longtemps. Le son, l'interactivité, notre rapport au monde au travers du son, ce que disait Arnaud, comment on perçoit et comment on perçoit mieux grâce au son. Donc forcément, ça a résonné avec énormément de choses qui font notre quotidien. Donc on est extrêmement excités et tout de suite, on a essayé d'imaginer un petit peu comment on pouvait utiliser ce magnifique matériau de base que sont les enregistrements de John Hull et comment on pouvait essayer d'immerger les gens dans cette expérience et dans ces cinq années au travers desquelles il a eu beaucoup de hauts et de bas. Donc on était un petit peu comme des enfants avec un nouveau jouet à essayer de trouver toutes les façons les meilleures pour retranscrire toute cette expérience et cette émotion qu'on ressent au travers du texte. Et on avait vraiment envie d'aller chercher cette émotion dans l'expérience aussi et de pas gadgetiser l'expérience. C'est pour ça qu'au départ on était vraiment parti sur quelque chose de purement audio. Et on s'est vraiment rendu compte que ça, comme le disait Arnaud, ça sert pas assez le propos. Donc on a rajouté une dimension visuelle. Et au bout d'un moment, on a même rajouté cette dimension immersive avec le casque. Mais le casque n'était pas là au départ du projet comme le visuel. Et ils sont vraiment arrivés parce que C'est devenu évident à un certain moment donné, mais pas comme un gadget. On s'est pas tout de suite dit, allez hop, on va mettre tout ça dans un casque parce que c'est à la mode et ça va être chouette. Donc ça s'est construit comme ça au fur et à mesure de ce qui servait le mieux l'émotion et le propos.
Alors vous partagez avec nous ce soir l'un et l'autre un extrait sonore donc en binaural pour dire le mot, donc à écouter de préférence, même plus que de préférence pour vraiment en profiter, il faut avoir sur les oreilles un casque ou mettre des oreillettes pour profiter de l'immersion sonore de cette quelque sorte du son en trois dimensions que vous avez produit pour Notes on Blindness. Et donc là, on va écouter, je crois que c'est la bande sonore du premier épisode, enfin la première séquence du documentaire de Notes on Blindness. Il faut représenter la scène. Donc on est à la place de John Hull, on est dans un parc, c'est ça Arnaud Colina?
Oui, tout à fait. La scène que vous allez entendre, c'est la scène d'introduction qui en fait va poser les codes de compréhension de l'univers que l'on installe dans l'expérience. Et donc, c'est une scène qui, originellement, dans les notes, avait comme titre « Notes on Acoustic Space », où John va décrire ce qu'est la perception du monde acoustique qu'il a à partir de son expérience, une expérience très quotidienne, qui est celle d'être assis dans un parc avec ses enfants.
Voilà, et comme il le dit, quand ça ne fait pas de bruit, eh bien ça disparaît. C'est un peu ça une des questions centrales de ce Notes on Blindness et de cet apprentissage finalement que fait John Hull au fur et à mesure. On est donc à sa place, on écoute ce qui se passe dans ce parc et il nous l'explique. C'est la vraie voix de John Hull qu'on va entendre. Il n'y a pas encore de version française, il y en aurait eu peut-être, mais là c'est vraiment la voix du réel.
A note on the nature of acoustic space. I've spent some time recently out of doors concentrating on trying to understand what the essential nature of the acoustic world is. Sitting in the park with the children on Good Friday, Holy Saturday, I hear the footsteps of people walking past me on the footpath. Many different kinds of footsteps. Women's high-heeled shoes, shoes that sound like flip-flops.
Voilà, il fait quelques typologies de bruits de pas, John Hull.
Groups of people walking together or apart. Children toddling along. With rapid steps. Somebody running. They come from this side and that side. They mingle and separate and pass me. There's the rustling of the newspaper from somebody sitting on the next bench. And the murmur of conversation from people sitting on the same bench. Further out to the right and behind me, there's the car park and the sound of people starting and stopping their cars and driving off.
Derrière, quelques bruits de voitures qui
démarrent. Way off to the left, there's the main road and the noise of the heavy traffic roaring past in the distance.
Et une grande route sur la gauche.
Further in front of me is the lake.
Et un lac en face de lui.
Ducks and the other pond. Birds, with all the quacking and the splashing
that goes on all the time as they land and take off and fight and squabble over bits of food. There's the splash splash of the paddle boat. And the little children crying out. Further off, there's the different sound of the rowing boats out on the larger lake. Beyond that is the park itself, and here one has the distant cries of people playing ball, shouts of children. This is all set against the breeze blowing in the trees behind me. And the myriad voices and sounds coming from all of these directions create a panorama of music and information, which is absorbing and fascinating.
Et tous ces sons qui créent un panorama, dit John Hull, un panorama de sons, un panorama fascinant. Il y a eu un véritable travail, évidemment, d'accompagnement sonore de cette voix, de ce récit. Le récit était nu, c'était une voix sur une cassette, sans rien d'autre, et vous avez travaillé à construire ce qui se passe tout autour, qui l'illustre à la fois, et en même temps, il faut bien se représenter des points lumineux, voilà, qui représentent ces actions, ce journal qui s'ouvre à droite, les cris des enfants, les canards sur le lac. Il y a ce travail-là à la fois de son et d'image. J'ai une question sur la voix qui vous a accompagné, qui continue de vous accompagner au long de la production de ce documentaire, qui est encore en cours, même s'il y a certaines parties qui existent, Arnaud Collinard et Amaury Laburte. C'est devenu quelqu'un de proche, John?
Il est...
Nécessairement.
Oui, Amaury Laburte.
Pardon.
Non, allez-y.
Oui, je crois que à la fois son texte et sa voix sont assez beaux à écouter, et bien qu'on l'ait écouté et réécouté, aujourd'hui j'en suis pas encore lassé parce qu'il a un phrasé avec un rythme qui est très agréable, des mots qui sont agréables, et donc ça a jamais été pénible de travailler à partir de ça. On a beaucoup travaillé parce que les cassettes sont de qualité inégale, donc on a essayé vraiment de ne pas tout remettre au niveau du plus mauvais, mais au contraire de rattraper ça pour que ça soit à un niveau acceptable, de conserver quand même le côté cassette qui a ce côté documentaire, c'est sa vraie voix, et donc il y a cet effet un peu vieillot de cassette.
Le clic,
c'est volontaire, ouais, on l'a placé au début à la fin pour remettre en contexte aussi cette voix qu'il a enregistrée lui-même. Mais ouais, à force, c'est vraiment devenu quelqu'un de proche. On peut pas dire qu'on a vécu ce qu'il a vécu, ce serait extrêmement prétentieux, mais il arrive quand même à transmettre cette émotion. Et du coup, nous, on s'est attelé à vraiment reconstruire tout cet univers autour de façon graduelle dans la plupart des scènes pour que les gens puissent s'approprier petit à petit ce matériau, tout en créant l'univers de façon assez sobre pour laisser au cerveau le temps et l'espace pour faire son travail de reconstruction. C'est-à-dire qu'effectivement, ce qu'on voit n'est pas plein, il n'y a pas des choses partout, il y a beaucoup de noir, et ça laisse l'espace au cerveau de refaire son travail d'association entre le son et le visuel, ou de recréer un petit peu cet espace perceptif, puisqu'on n'est pas en train d'essayer de visualiser quelque chose de vrai, mais plutôt sa perception à lui.
Sa perception à lui, et comme il le dit, sans son, pas de signe, et donc la partie du monde qui ne fait pas de son meurt à ses yeux, et là tout d'un coup tout devient noir, c'est la fin de la première scène. Oui, alors sur cet accompagnement, Arnaud Collinard, par la voix de John Hull.
John était très proche de Peter et James.
Les réalisateurs.
Les réalisateurs du long métrage, donc qui va sortir en salle aux États-Unis, en Europe et en France, en Allemagne, qui sera diffusé sur Arte, a priori à la fin de l'année. Son décès a été quelque chose de très fort, en fait, pour les deux réalisateurs. Je me souviens, le jour où on l'a appris, c'était assez étrange parce que John Hull, qui était vraiment dans cette transmission pour essayer à la fois de comprendre et de faire comprendre ce que c'était que de basculer comme ça dans le monde de la cécité, nous on a lu en fait son journal intime, on s'est plongé dans le journal intime de quelqu'un qu'on ne connaissait pas, et on l'a lu des dizaines et des dizaines de fois, on a écouté ses bandes, et en fait le jour où on a appris son décès, j'avais l'impression de perdre quelqu'un que je connaissais très bien, mais qui lui ne me connaissait pas du tout. Et c'était une impression très étrange, en fait, d'imaginer que quelqu'un puisse donner accès à des choses aussi intimes de sa vie intérieure, mais aussi et de sa vie familiale.
On est vraiment, en plus, dans son récit, dans cette problématique des traces de la mémoire, des traces de ce qui reste, de ce qui disparaît, de ce qui demeure malgré la disparition. On tombe assez vite, on se hausse assez vite vers des questions justement qui sont véritablement universelles.
Oui, il y a une dimension métaphysique en fait dans ce documentaire. Et c'est ça, je pense, qui nous a le plus attiré avec Amaury et toute l'équipe créative, c'est que on n'est pas seulement dans un propos sur le son ou sur la perception. En fait, c'est en quoi la perception joue sur notre compréhension du monde et sur notre place dans le monde. Et pour moi, c'est ça la force de ce projet, et en tout cas sur des projets interactifs, et c'est pas le premier qu'on produit, en particulier avec Arte. Je pense que c'est la première fois qu'on a un matériau, comme disait Amaury, aussi fort, et donc une partie de la réussite de ce projet repose en fait dans la qualité du témoignage de John Hull. Et ce que vous entendez, il est pas en train de lire un texte, c'est une pensée, en fait, c'est une pensée qui sort et qui jaillit en fait de John Hull, et ça vous donne une idée
de la densité de
sa pensée, quoi. C'est assez incroyable d'entendre ces cassettes. On a l'impression d'entendre une lecture en fait philosophique.
Ce qu'on entend d'ailleurs, c'est aussi que d'ailleurs la voix change selon les épisodes que vous avez pu partager avec moi, et qu'on pourra dont on pourra profiter à l'été peut-être. C'est ça. On peut imaginer que le documentaire en réalité virtuelle existe à ce moment-là.
Alors sur les dates de sortie, alors pour ceux qui s'intéressent un peu aux problématiques de l'interactif et de la réalité virtuelle, il y a des vraies questions de distribution. Mmh. Aujourd'hui, il y a peu de gens qui ont accès à ces casques, il y a peu de stores comme l'Apple Store ou le Google Play Store pour le distribuer. Donc on va essayer de synchroniser la sortie de cette expérience interactive avec la sortie du film.
D'accord.
Et en ce moment, on penche vers une sortie à l'été. Mais il est possible aussi que ce soit un peu plus tard, pendant la diffusion, en tout cas pour la France et l'Allemagne, du documentaire sur Arte, donc à la fin de l'année.
Alors selon les épisodes, donc la voix de John Hull évolue. Il y a des années qui passent aussi, évidemment, mais on sent son cheminement personnel aussi. C'est le côté non seulement de l'acceptation finalement de la cécité, mais aussi de tout simplement d'écrire un monde, son propre monde qui se transforme. Et c'est aussi l'histoire de l'apprentissage d'un nouveau rapport au son de son propre environnement, à Maurice Laburte.
Oui, tout à fait. Il y a d'ailleurs une scène qui nous pose pas mal de difficultés, qui est une scène où il est assez déprimé. C'est la première fois qu'il sort à l'extérieur une fois qu'il est devenu aveugle, alors qu'il a neigé, et du coup il perd tous ses repères acoustiques. Et sa description est assez intense. Il décrit à quel point ça l'a affecté, à quel point ça l'a déprimé. Il est retourné chez lui, il a marché à peine 50 mètres, il a fait demi-tour. Et il s'en est suivi une période de dépression assez profonde. Et c'est une scène qu'on a beaucoup de mal à retranscrire. Et on sent que sa voix est plus lourde, plus pesante. Mmh. Et c'est vrai que c'est du coup assez difficile de le mettre en image et en son. Donc, on suit vraiment un cheminement qui, par moments, a été très, très difficile. Et qui le rend d'autant plus émotionnel, chargé en émotions en tout cas.
Alors Amaury Laburte, vous disiez tout à l'heure, vous dirigez une société qui s'appelle Audio Gaming. Vous êtes passé, je crois, par l'IRCAM, par Sony et puis aussi par Ubisoft, donc le jeu vidéo. Est-ce que le jeu vidéo a fait avancer justement la question du son et de la fabrication des mondes sonores?
Oui. Oui. J'ai commencé à donner des cours aussi à l'Engmin, un master en jeux vidéo et médias interactifs. Et au début, j'avais un discours peut-être un petit peu pessimiste en disant, oh là là, vous savez, le son, c'est quand même la dernière roue du carrosse. J'ai beaucoup changé ce discours-là parce qu'en fait, c'est complètement faux. Dans le jeu vidéo, le son a une part vraiment importante. On dit souvent que le son, c'est la moitié de ce qui se passe dans un film ou dans un jeu vidéo. C'est assez faux, en fait, et ce serait prétentieux de dire ça, parce que ce serait oublier l'éclairage, la photo, les costumes, le scénario, ce serait oublier tous ces aspects-là. Donc le son, c'est une composante parmi d'autres, et dans le jeu vidéo, elle est pas spécialement maltraitée, en tout cas pas dans mon expérience. On peut faire énormément de choses. Par contre, il y a souvent une mauvaise appréhension de ce que peut être la complexité audio d'un jeu vidéo. Pour donner des ordres de grandeur sur un film, vous allez avoir peut-être 500, 600 fichiers audio. Mmh. Le dernier jeu sur lequel j'ai travaillé quand j'étais chez Ubisoft, on avait 70 000 fichiers audio. Mmh. Donc il y a un rapport qui est vraiment assez énorme entre les deux. Et il y a une complexité dans le jeu vidéo, on ne sait pas ce qui se passe à l'avance, c'est pas linéaire. Mmh. Donc il faut prévoir tous les cas, il faut prévoir...
C'est ça l'interactif qu'on retrouve aussi dans Notes on Blindness.
Exactement, et toute cette dimension-là, c'est quelque chose qui nous aide à énormément triturer la matière sonore, à prévoir énormément de choses, de nouveaux outils, et ça c'est vraiment très très novateur. Et je pense que on le voit de plus en plus avec des formats comme le Dolby Atmos. Finalement, le jeu vidéo se met à influencer le cinéma, puisqu'on se met à penser pour le cinéma, à faire des trajectoires 3D de son dans un espace sonore qui peut être le cinéma ou son home cinéma chez soi, alors que c'est quelque chose qu'on fait déjà depuis 20 ans dans le jeu vidéo. Donc ça influence, ça aide beaucoup, je pense, à développer le son, et en particulier sur des expériences comme Notes on Blindness, ça influence énormément, puisqu'on a beaucoup d'outils pour faire du son interactif et créer des choses assez étonnantes de ce point de vue-là, et se différencier du linéaire.
Mmh. Alors Notes on Blindness n'est pas terminé, donc on l'a compris, sans doute peut-être à l'été, on pourra en profiter, et dans la version long-métrage, qu'on a compris qui est en préparation, et puis donc sous cette forme-là de réalité virtuelle avec ce casque, avec ces casques pour les yeux et pour les oreilles. Arnaud Collinard, il est déjà très bien qu'il ne soit pas terminé, il est déjà très bien accueilli, non, Notes on Blindness. Vous parliez du festival de Sundance aux États-Unis, est-ce qu'il y a un festival reconnu de cinéma déjà, voilà, c'est aussi une place pour ce type de production.
Alors oui, la chance qu'on a eue avec ce projet, c'est de pouvoir accéder à la compétition du festival de Sundance qui s'appelle New Frontier, qui est consacré aux œuvres hybrides, dans laquelle on a à la fois présenté le film, puisque le film est à la fois un documentaire sur sa dimension audio, mais reconstruit, les Anglais parlent de dramatization, c'est-à-dire on va remettre en scène le réel, donc tout ce qu'on voit à l'image est en fait de la fiction, et quand vous voyez parler les personnages, en fait les comédiens font semblant de parler, tout ce que vous entendez est vraiment de dimension documentaire. Donc ce mélange des genres en fait a amené à la présentation du documentaire cinématographique à New Frontier, ainsi que le documentaire en VR. Mm-hmm. On va aussi présenter cette expérience au festival du film de Tribeca à New York. Là il y a un festival qui tourne au travers de différentes villes, qui s'appelle le Kaleidoscope Festival, qui c'est 12 villes où sont présentées des œuvres VR, dont Notes on Blindness. C'est le mode de production qui est vraiment, comme le disait Amaury, inspiré du jeu vidéo, c'est-à-dire un mode itératif où on va terminer un chapitre, puis deux, puis trois, puis quatre, et on est toujours en position de pouvoir présenter quelque chose qui nous permet en fait de montrer dès maintenant notre travail,
tout en travaillant
sur le reste, et dans un contexte où il y a une vraie envie et excitation des médias et du grand public pour la réalité virtuelle, et en fait pour des projets indépendants comme celui-ci, donc des projets qui sont aidés par le service public, le CNC, Arte, c'est extrêmement important de profiter de cet engouement, puisqu'on est quand même sur des choses relativement pointues, c'est clairement pas Just Dance ou Far Cry, et donc c'est vrai
c'est
que...
C'est quoi ça?
Jeux vidéo triple A
d'Ubisoft.
Ouais. Effectivement, c'est important pour nous de s'inscrire dans cet engouement pour la VR.
Arnaud Collinard, Agathe Film Ex Nihilo, Amaury Laburte, Audio Gaming, merci beaucoup d'être passé par ici. Arnaud Collinard, vous à Paris, et Amaury Laburte, vous à Toulouse. Merci beaucoup pour parler de Notes on Blindness. On va mettre évidemment une série de liens sur franceculture.fr, sur le site de Supersonic, pour ceux qui voudraient, on espère qu'ils seront nombreux, aller plus loin. Et on guettera donc la sortie de Notes on Blindness. Merci beaucoup.
Merci.
Au revoir. Au revoir. C'est ainsi que se termine Supersonic ce soir. On met évidemment toute une série de liens complémentaires à notre conversation sur Notes on Blindness et à notre rencontre avec Sébastien Lespinasse, l'invité de la première partie de l'émission. On met tout ça sur franceculture.fr, où on trouve aussi les commentaires et les podcasts, et la réécoute désormais possible pour toujours et définitivement. Supersonique est préparé et coordonné par Inès De Bruyne et réalisé par Véronique Lamandour. Au son ce soir, il y avait Célia Dufour et Pierre Monteil. Et à France Bleu Toulouse, où Amaury Laburte et Sébastien Lespinasse se sont croisés, il y avait Patrice Lecomte. Tout de suite, vous retrouvez les nuits de France Culture. Portez-vous bien et à samedi prochain.